Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré.
Depuis quelque temps, on entend beaucoup parler d'enjeux masculinistes, de la place de l'homme au niveau des émotions. Bon, il y a eu, entre autres, le documentaire « Mâle Alpha » qui a fait couler beaucoup d'encre numérique et on avait envie de réfléchir avec un homme qui, ma foi, semble avoir intégré de belles qualités qu'on dit féminines et qu'au fond, on devrait tout simplement dire des qualités humaines. Alors, il se décrit comme un entrepreneur social et ça sera intéressant de pouvoir développer avec lui tous ces sujets. Il s'appelle Michael Carlier et son organisme tout nouveau, ça date de 2023, s'appelle « Des hommes qui changent ». Bonjour, Michael.
Bonjour, Chantal.
Qu'est-ce qui vous a amené à créer « Des hommes qui changent »
C'est une petite question qui peut avoir une longue réponse, mais mon parcours, donc vous le disiez, je suis entrepreneur social, j'ai eu une autre entreprise pendant plus de 15 ans, Novae, qui était un média en développement durable, qu'on a fermé post-pandémie pour toutes sortes de raisons. Mmh. J'avais fait un peu le tour de ce sujet-là et la question de la démasculinité, si on met un pluriel, était un sujet qui me faisait réfléchir depuis longtemps. J'ai écrit un roman qui est sorti en 2022. Qui est une fiction, mais finalement, je me suis rendu compte un peu en après-coup presque que c'est une histoire de transgénérationnel, de parcours entre des hommes, des pères et des fils. Finalement, la masculinité était déjà intrinsèquement là, un peu en arrière-plan, mais finalement qui était là. Et puis, en fait, c'est des réflexions où je me suis rendu compte que la question de la masculinité, ça nous touche individuellement, moi comme homme, en tant que père, en tant qu'amoureux. Évidemment, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, qui cherche à grandir dans la vie. Et c'est aussi une question où j'en parlais avec des amis hommes et je sentais que ça vibrait, qu'il se passait quelque chose. Et puis, en fait, c'est plusieurs lectures qui m'ont amené à réaliser à quel point ce sont aussi des gros enjeux collectifs. Et peut-être qu'on va pouvoir approfondir là-dessus, mais c'est là que ça m'a amené à me dire mais il faut qu'on adresse cette problématique-là, cet enjeu-là. Il n'y a rien qui aborde finalement de façon plus saine, de façon plus positive les masculinités. Vous le disiez en introduction, on parle beaucoup des masculinités toxiques, mais ce n'est pas que ça, heureusement, d'être homme, même si c'est ça qui prend beaucoup de place dans le discours public. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre proposition, finalement, et c'est ça qui m'a amené, avec quelques personnes autour de moi, évidemment, à structurer, à mettre en place cet organisme qui est effectivement tout récent. Il y a beaucoup à faire.
Oui. Ben, j'ai eu l'occasion de faire une entrevue avec Michel Doré, qui a écrit le livre sur la masculinité toxique. Et dans le fond, ce qui met en opposition, c'est la masculinité versus la virilité. Souvent, ce qu'on associe à de la masculinité toxique est plus associé à des comportements virils qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, alors qu'être masculin, c'est pas, il n'y a pas de bon mauvais en soi, c'est une énergie comme telle. Donc, c'est assez récent qu'on parle de masculinité toxique, mais ce que j'aimais sur votre site Internet, c'est que vous interpellez les gens en disant... les hommes en disant ben, est-ce que n'avez-vous jamais fait, par exemple, une blague sexiste? N'avez-vous jamais? Et finalement, ça amène un petit peu à se remettre en question.
Oui, ce que vous citez sur le site, en fait, on l'a repris du livre Cocorico de Michaël Bergeron, qui effectivement met en lumière un peu qu'effectivement, tous, on a, j'ai envie de dire, un peu de toxicité, mais j'aime pas trop le formuler comme ça, mais on a tous un peu des comportements qui peuvent être déplacés ou en tout cas pas appropriés dans certaines mesures.
Qui sont associés à une perception, on parle de, on disait avant des mononcles.
Oui.
Une masculinité toxique, qu'on parle de commentaires déplacés, qu'on parle de regards ou d'attouchements, mais il y a eu une certaine époque où on n'associait pas ça à des comportements toxiques. On disait que
c'était ça, la
tout bon mononcle dans un party de Noël avait cet agissement-là, mais c'est le fruit d'une époque.
Oui, mais en même temps, je pense qu'on est encore dans une certaine mesure dans cette continuité de cette époque-là. Nous, ce qu'on cherche à faire, ou en tout cas ce sur quoi on veut travailler, c'est cette socialisation des hommes. Pourquoi ces commentaires-là sont permis? Parce que dans la socialisation, c'est correct, voire même favorisé de dominer la femme. et ou même d'autres populations aussi. Donc c'est l'homme blanc hétérosexuel cisgenre, là, si on rentre de façon très très précise dans des catégories, qui est censé être en haut de la pyramide et qui peut se permettre donc de dominer les autres, même qui doit dominer, parce que c'est ça aussi, c'est de devenir dans notre identité, il faut dominer pour être un homme. C'est ça qu'on cherche aussi beaucoup à articuler, à documenter ou à déconstruire, c'est comment on peut être un homme autrement finalement sans être dans cette domination-là. Parce qu'on est socialisé de cette façon-là. Aujourd'hui, pour être un homme, pour être reconnu parmi les hommes, j'ai envie de dire, il faut encore être dans cette domination-là. Donc, comment on peut être homme? Comment on peut créer de nouveaux super-pouvoirs? On essaye d'amener un peu cette discussion-là. Comment on peut être dans l'empowerment masculin, ce qui pourrait être un peu contradictoire, parce que l'homme, a priori, a beaucoup de pouvoir déjà.
Déjà de reconnaître ce pouvoir-là.
Exactement, mais comment orienter cette puissance, ce pouvoir vers quelque chose de beaucoup plus sain pour soi et pour les autres. Parce que c'est ça aussi notre articulation, notre argumentaire, j'ai envie de dire. On ne le fait pas pour les autres, on le fait aussi d'abord peut-être pour soi, pour être mieux avec soi-même, pour être mieux avec les autres.
Donc, vous souhaitez, dans votre mission, accompagner les hommes et les organismes. Donc, quel type d'activité vous offrez?
Oui, parce que notre vision des choses, c'est qu'effectivement, il y a l'individu qui a un cheminement potentiellement à faire s'il a cette ouverture-là. Évidemment, on ne partira pas de quelqu'un qui est complètement bloqué dans l'autre extrême du spectre. Mais les organisations, notamment les employeurs, les grandes entreprises, mais en tout cas les organisations au sens plus large, sont des écosystèmes de transformation qui sont incroyables parce qu'évidemment, il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'employés dans les organisations. Il y a une capacité de changement qui est forte. Une de nos portes d'entrée, c'est à travers les grandes entreprises qui mettent en place des pratiques de DI, équité, diversité, inclusion, donc pour mettre beaucoup plus de place, de donner beaucoup plus d'opportunités pour notamment les femmes, les personnes racisées, etc. Et qui se confrontent à des enjeux où les hommes blancs, encore une fois, se sentent menacés, se sentent plus au goût du jour, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de friction potentiellement autour de ces thématiques-là. Donc notre proposition, c'est comment accompagner les hommes dans cette transformation de la société, mais qui s'articule aussi dans les organisations, chez les grands employeurs. Comment on accompagne l'homme à comprendre ce qui se passe finalement autour de lui? Comment il peut se sentir non plus menacé, mais de voir ça comme des opportunités? Comment il peut à nouveau trouver sa place, mais une place saine qui laisse la place aux autres sans se sentir menacé? Donc ce qu'on propose, c'est des espaces à la fois de conversation, d'écoute des hommes. Encore une fois, ça peut paraître contradictoire, mais les hommes, s'ils ont beau avoir le micro, généralement, ils ne parlent pas d'eux dans leur intimité, ils parlent dans un discours public. Mais donc, à la fois écouter les hommes, puis les accompagner dans une conversation posée, sereine, sur comment on peut avancer collectivement.
J'aime particulièrement cet angle de l'équité, diversité, inclusion que j'anime ici à Canal M, une série qui s'appelle Inclusion Inc., où je reçois des responsables de DI. Et d'ailleurs, je pense qu'on vous invitera à creuser.
Avec plaisir.
Un peu. Parce qu'effectivement, c'est une manière d'aborder les deux thèmes. C'est comme une alliance que vous faites entre deux thèmes intéressants.
C'est absolument. J'ai envie de dire même, c'est plus qu'une alliance, parce que pour moi, aujourd'hui, le DI manque un gros morceau, et puis beaucoup d'employeurs me le confirment. Aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est que le DI n'avance plus comme on aurait voulu que ça avance il y a 5 ou 10 ans, parce qu'une énorme partie des équipes, finalement, les hommes majoritairement, n'embarquent pas dans ce projet-là. Donc, il y a un gros, gros problème.
On ne peut pas inclure si le plus gros des gens
absolument,
ne sont pas dans cette posture-là.
Absolument. Donc là, il y a un gros problème à régler, effectivement, là-dessus.
On se gardera cette conversation-là pour Inclusion Inc. Ce qui m'a assez fascinée quand on entre dans votre site, déjà, texto, on dit « les hommes sont responsables de l'écrasante majorité des comportements asociaux ». On lit que c'est un problème systémique. On le sait, là, au niveau des enjeux culturels, on s'est obstiné longtemps à savoir systémique, pas systémique et autres, mais je voyais que vous le cantonnez, là, vous le dites, c'est un problème systémique.
Oui, je pense qu'on le voit à toutes les échelles, j'ai envie de dire, à la fois dans les organisations, dans nos familles, dans la société, je pense que c'est largement démontré. Puis effectivement, cette citation où l'aspect de l'écrasante majorité des comportements asociaux sont le fait des hommes. Je tire ça d'un livre très intéressant de Lucille Pétavin, qui est une historienne française qui a écrit « Le coût de la virilité ». Combien coûte la virilité?
Des chiffres astronomiques.
En France, elle a documenté que ça coûte 95 milliards d'euros par année. C'est-à-dire que là, c'est prendre à la fois toutes les frais pour prendre soin des victimes de violences de toutes sortes, mais c'est aussi réparer le mobilier urbain, par exemple, à la sortie d'un match et qu'il y a des émeutes ou qu'il y a des manifestations violentes, etc. C'est mobiliser la police, c'est mobiliser les pompiers, c'est mobiliser les ambulanciers, etc., etc. Elle a chiffré que c'est 95 milliards d'euros, non pas tant à cause des hommes, mais de la façon dont on socialise, encore une fois, les hommes dans cette violence qui est acceptée, qui est tolérée, voire éventuellement même encouragée, dans cette domination. Donc, c'est aujourd'hui, effectivement, quand on lit les journaux, quand on lit les faits divers, j'ai envie de dire, 95% du temps, il s'agit d'hommes qui ont commis des actes répréhensibles ou néfastes pour le vivre ensemble. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas... C'est pas une fatalité, ça. C'est ça, en fait, qu'on cherche à dire, en tout cas, qu'on est plusieurs à chercher à dire. Ce n'est pas une fatalité. L'homme ne n'est pas violent et impulsif de cette façon-là. C'est la façon dont on l'autorise à explorer d'autres choses de la facette. Vous parliez d'humanisme en début de la discussion. Ben, c'est là. C'est comment on peut aussi mettre en avant d'autres comportements, d'autres aptitudes, finalement, sociales.
Et il y a quelques années, j'aurais eu l'impression de recevoir votre discours en disant « Bon, c'est fini cette époque-là, on est passé ailleurs, on est rendu ailleurs, particulièrement au Québec, mm-hmm. où on sent vraiment l'égalité entre les hommes et les femmes. » Et il se trouve que j'ai un garçon de 21 ans qui m'a parlé d'Andrew Tate. Mm-hmm. Je ne savais pas c'était qui. Et quand j'ai entendu cet individu, que d'ailleurs, on parle dans le récent documentaire « Mâle alpha », je vous avoue que je suis tombée des nues. Mm. Je n'avais pas l'impression que de tels discours masculinistes... Parce que tout ce que vous dites, c'est comme s'il y a une valorisation, tout à coup, un retour à des rôles traditionnels, à que l'homme doit être un pourvoyeur, doit protéger sa famille. Puis en soi... C'est bien de valoriser l'aspect familial et tout ça, mais dans le discours d'Andrew Tate et d'autres influenceurs, là, on est dans une propagation de violence contre les femmes.
Mmh, oui, absolument. Oui, puis aujourd'hui, en fait, c'est que ces masculinistes-là viennent répondre à quoi? Ils viennent répondre à un grand vide devant les hommes.
Une perte de repères.
Une perte de repères. Oui. Et il y a aucune proposition autour de... Le féminisme ou les féminismes, de décennie en décennie, ont fait beaucoup de propositions pour l'émancipation des femmes.
Ben parce qu'elles n'avaient pas le choix. Elles devaient réagir.
Absolument. Oui. Et les hommes n'ont pas eu leur équivalent. Mm-hmm, donc, les hommes sont un peu restés presque dans les années 50, si on schématise un tout petit peu. Là, mais il n'y a pas eu cette évolution dans la réflexion de comment l'homme peut continuer à s'émanciper dans une société qui évolue. Et aujourd'hui, les masculinistes, en fait, s'engouffrent dans cette brèche, dans ce vide-là pour les hommes qui ont peur, qui sont frustrés. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de frustration chez les hommes. Parce qu'effectivement, les femmes prennent trop de place, etc. Et ils sont complètement perdus. Il n'y a plus de code pour être épanoui, finalement. Et donc, les seuls codes qui restent, bah, c'est ce que les masculinistes utilisent, bah, c'est les codes précédents. Bah, non, pour être épanoui, bah, soit l'homme pourvoyeur, renvoie ta femme à la cuisine, etc. Donc, mais c'est quoi l'alternative? Bah, c'est un peu ce qu'on cherche à proposer, finalement. Comment on peut créer d'autres types de discussions et surtout comment on peut créer d'autres types de codes pour l'épanouissement des hommes dans une perspective égalitaire.
J'ai envie de dire, renvoie ta femme à la cuisine. Encore faut-il que ce soit lui qui ait la possibilité de la renvoyer quelque part. Mais, vous voyez? Donc, c'est un discours un petit peu à contrario, tout ça, de développer des nouveaux repères, des nouveaux modèles. C'était un peu l'idée peut-être du concours que des hommes qui changent a lancé.
Oui, absolument. On a créé... moi, j'aime beaucoup les concours. J'en ai créé toutes sortes dans ma carrière, non pas pour l'aspect compétitif, mais plus pour... C'est l'occasion de raconter des histoires. Oui. À la fois de mettre de l'avant des comportements, des individus, des initiatives qui sont inspirantes, mais de raconter ces histoires-là. Et justement, pour qu'on ne raconte pas que des histoires de masculinité toxique, qu'on ait l'occasion, l'opportunité de raconter d'autres types d'histoires autour des hommes. Donc, on a créé effectivement le concours pour une première édition dont les résultats ont été dévoilés en juin dernier, pour effectivement mettre de l'avant. Mais c'est quoi des hommes qui peuvent être épanouis sans être dans cette colère, dans cette frustration, qui l'ont peut-être été à un moment dans leur vie, c'est correct, on ne naît pas parfait, et ils ne le sont pas pour autant, mais comment on chemine et comment on peut s'épanouir? Donc effectivement, on a mis de l'avant ce concours, on a eu trois lauréats cette année, avec des profils très très différents, l'un qui travaille sur la photo et qui fait de la recherche sur l'image du corps masculin, parce que là aussi, il y a beaucoup d'injonctions. Il faut être musclé, il faut être fort, etc. Ben non, on peut être homme et puis être migrichon, bedonnant, et puis être beau et intéressant pour autant. Donc bref, c'est finalement de raconter, encore une fois, de montrer des modèles. De montrer des modèles, et on a envie que ce concours, évidemment, gagne en popularité et en visibilité au fil des années. Mais l'idée, c'est de montrer, effectivement, qu'on peut être homme avec un beaucoup de S,
oui.
Cette pluralité
oui,
de la masculinité. C'est ça qui nous intéresse.
Oui, d'offrir plusieurs visages oui. à la masculinité. Michael, on fait une courte pause, puis on poursuit la discussion.
Très bien.
Merci. De retour en studio avec Michael Carlier, qui a fondé en 2023 l'organisme des hommes qui changent, qui a pour mission d'accompagner les hommes et les organisations dans l'identification, la mise en valeur et l'adoption de codes masculins positifs. Bon, c'est une bien grande mission, tout ça sur papier, mais concrètement, comment on fait vivre ça? Par où on commence? Les parents, les grands-parents, l'école, la garderie, les médias?
J'aurais envie de dire
partout.
Tout. Tout. Vous le disiez, ça fait même pas 2 ans qu'on existe. Mm-hmm. On arrive aussi avec beaucoup d'humilité. Le chantier ou les chantiers sont colossaux. Donc, c'est pas nous tout seuls qui, en quelques mois ou quelques années, allons tout changer. Ce qu'on propose, c'est peut-être d'amener, notre participation à cette évolution-là. Ce qu'on a commencé à faire, c'est rentrer un peu en contact, je le disais, avec des employeurs, avec des organisations, plutôt établissements scolaires rentrent en contact avec nous aussi. J'anime certains cercles de parole pour des hommes dans des milieux plus de famille et de parentalité. Donc, j'ai envie de dire que pour l'instant, on essaye des choses, on voit où est-ce qu'il y a de l'appétit et de la réception pour ça. On est aussi, pour l'instant, beaucoup bénévole. Moi, j'ai un autre métier, j'ai envie de dire, de consultant en communication et impact social à côté, parce que pour l'instant, on fait ça de façon principalement bénévole. Donc, l'idée, après, c'est de voir où est-ce qu'on a effectivement des leviers de transformation à court, moyen, long terme, où est-ce qu'il y a de l'appétit, où est-ce qu'il y a des financements qui peuvent arriver, évidemment, avec ça. Mais toutes ces sphères-là, parce que la masculinité s'exprime dans toute notre vie, donc à la maison, au travail, avec nos enfants, avec notre conjointe, nos conjoints, etc. Donc, c'est de voir où est-ce qu'il y a des opportunités de changement. Donc là, c'est ça. J'en ai nommé quelques-unes qu'on a commencé à faire. C'est un sujet qui est émergent parce que le sujet aussi fait un petit peu peur. Parce que
dans quel sens ?
Dans le sens où quand on parle des hommes, encore une fois, on l'associe à masculinité toxique, on l'associe à conservatisme, on l'associe à Andrew Tate. Donc tout d'un coup, ça fait peur. Parler des hommes, mais non, les hommes, déjà, on parle déjà assez d'eux. Et quand on en parle, en plus, c'est en mal. Donc il y a quelque chose, il y a une espèce d'appréhension d'aborder le sujet, mais qui est absolument nécessaire. Si on veut que la société continue à évoluer positivement, il faut que la moitié de la population embarque aussi dans cette conversation. Donc, il y a cet accompagnement aussi dans cette acceptabilité sociale, j'ai envie de dire, de oui, ce sujet-là, il faut l'adresser, adressons-le intelligemment.
Avez-vous senti que dans vos interventions, vous avez fait évoluer la pensée de certains hommes?
Oui, absolument. C'est ça qui est magnifique. Heureusement, parce que ça pourrait être décourageant.
Oui,
sinon. Oui, mais j'ai un exemple. Je vous disais, j'anime certains cercles de parole, notamment pour des jeunes papas, dans un organisme communautaire. On ne le fait pas chez nous, on le fait pour d'autres, j'ai envie de dire. Donc, on le fait avec cet organisme communautaire à Montréal. Et un jeune père qui on sentait dans l'espace de conversation qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie qui lui pesaient. Et à la fin du cercle, je lui dis, mais c'est magnifique ce que tu as partagé. On a été une caisse de résonance pour accueillir ça. C'est très beau. Mais je crois que tu aurais besoin d'un soutien plus régulier, notamment avec un psychologue, en tout cas avec un thérapeute, etc. Et sa réaction, c'était de dire, mais non, je suis pas fou. Et un peu, un peu des vieux réflexes. C'est quelqu'un qui avait même pas 30 ans. Parce que dans sa famille, dans son histoire, dans ses collègues, ce n'est pas quelque chose dont on se parle d'aller voir un psychologue ou d'aller voir un thérapeute. Et, Et bien, cette conversation-là, je l'ai revue deux, trois mois plus tard. Il m'a dit, Michael, j'ai un thérapeute maintenant. Mmh. Ça me fait du bien. Et d'avoir cet espace-là, de se sentir, à la fois de se permettre d'être vulnérable, de dire, je ne vais pas bien, je ne sais pas si je peux aller chercher de l'aide parce que ce n'est pas autorisé dans mon code à moi. Mmh. Et en plus, bah, de sentir que tu es accueilli avec ça et que la réponse est, mais va chercher de l'aide. Tu as besoin d'aide. De ce que j'entends, tu as besoin d'un soutien. C'est cette acceptabilité que oui, on est un homme, mais on peut être vulnérable, on peut avoir besoin d'aide et que l'aide va nous être utile et pertinente. Donc oui, ça, c'est un des beaux exemples que j'aime citer.
Quand j'avais fait l'entrevue avec Michel Doré, il soulignait le fait que les femmes étaient très entourées, mm-hmm. avaient beaucoup d'amis, mm-hmm. Et comme elles expriment leurs émotions, en quelque sorte, elles nettoient au fur et à mesure les émotions, oui. au lieu de laisser ça grandir, et tout à coup, il y a une violence qui s'empare parce que c'est comme une marmite, là, ça mijote depuis oui. un certain temps et on perd un peu le contrôle oui. de tout ça. Et lui, il disait que les hommes n'ont peut-être pas autant d'amis, ou quand ils ont des amis, c'est plus, comme vous le disiez tout à l'heure, des discussions, les Canadiens, la politique, des discussions qui sont en dehors des émotions.
Oui, mais oui, je reviens beaucoup sur la socialisation, parce que pour nous, c'est notre angle d'attaque. Là, il faut socialiser les hommes autrement. C'est pas nous qui avons décidé qu'on n'avait pas d'émotions, qu'on ne savait pas les exprimer. C'est parce qu'on ne nous apprend pas à faire ça. Alors qu'effectivement, les femmes, il y a quelque chose de beaucoup plus valorisé, valorisant. Mais oui, entre les filles, vous allez vous parler, etc. Même à l'enfance. Donc oui, les hommes vivent une grande solitude émotionnelle, même s'ils sont entourés éventuellement. Je dis bien éventuellement, parce que c'est pas toujours le cas. On sait que souvent, là où on peut s'exprimer, c'est finalement avec notre conjointe, pour la plupart oui. des hommes, mais qui ne vont pas s'exprimer avec leurs amis gars, parce qu'on ne nous apprend pas ça, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans la vulnérabilité, on n'est pas dans l'intimité, c'est quelque chose qui nous rend très inconfortable, parce qu'on ne nous apprend pas à aller sur ce chemin-là. Et donc les hommes, effectivement, sont seuls, et quand il y a un problème financier, problème de sexualité, problème de professionnel, avec qui on en parle, ben, le réseau est extrêmement oui. ténu.
Et c'est ce qui fait que dans les cas de rupture, les femmes pleurent beaucoup, mais ultimement, on se rend compte que c'est les hommes que ça dévaste, parce que tout l'émotionnel était dirigé, en fait, c'était avec sa conjointe, il pouvait Absolument. Se confier, donc Absolument. Il n'y avait pas nécessairement d'autres endroits, d'autres personnes à qui parler.
S'il n'y a plus la conjointe, mais là, on se retrouve encore plus seul, effectivement. Mm. Alors que les filles, effectivement, les femmes vont aller retrouver leurs copines de filles. C'est un peu le classique, mais ça, c'est quand même ça la réalité.
Et c'est ça. Et ce qui me rend perplexe un peu, c'est qu'effectivement, avant, quand on parle de l'éducation, on entendait que c'est les pères qui disaient « bon, un homme, ça pleure pas, mm-hmm. etc., etc. » Et je me disais spontanément, avec une autre génération de pères, ça va se corriger. Mais là, on voit justement ces mouvements masculinistes-là, donc qui est le reflet d'une sorte de vide. Comment on réussit à le remplir, ces vides-là?
Ouais, je pense que quand même, moi, je voudrais juste relativiser que c'est mm-hmm. le mouvement masculiniste, on en parle beaucoup, ça ne rejoint pas tous les hommes.
Oui. Oui.
Je pense qu'il y a une place dans
Peut-être que notre
dans les
peur
médias
est plus grande que...
Ben, ça existe, ouais. ça existe, oui. c'est sûr, mais ce n'est pas tous les hommes qui se sentent interpellés par ce discours-là, heureusement.
Heureusement.
oui. Mais, et heureusement aussi, il y a aussi beaucoup d'hommes qui ne se sentent plus interpellés par le patriarcat et justement cette invulnérabilité-là. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'il y a un chemin, je crois, quand même relativement large qu'il faut trouver entre les deux, entre l'ancien modèle du patriarcat et ce que tente de revamper un peu en termes de marketing, les masculinistes, mais je pense qu'il y a une voie du milieu où beaucoup d'hommes cherchent quelque chose de plus apaisé, de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus ancré dans ce qu'ils sont comme humains, et au-delà du fait d'être homme ou pas homme, là, d'être humain, et donc cette opportunité pour répondre à ce vide-là, c'est ça, c'est de proposer ces espaces de discussion, de conversation, d'introspection, et de mettre de l'avant des modèles. Quand on regarde, on écoute les grands films, les héros sont les héros musclés, stoïques, etc. Mmh. etc. Dans l'imaginaire collectif, il n'y a pas que ça évidemment, mais dans l'imaginaire collectif, c'est très très présent. Comment on peut inventer d'autres types d'histoires, d'autres modèles, d'autres héros qui sont beaucoup plus nuancés, on va dire.
Oui, et ce qui est pernicieux, et je me permets vraiment une opinion personnelle comme femme, autant on dit qu'on veut des hommes qui ont une intelligence émotionnelle. Mmh. Je vois dans votre regard, vous savez où je m'en vais.
oui, je crois, oui.
en même temps, mon fils de 21 ans, qui a cette douceur-là, se fait souvent friendzoné. Mm-hmm. Donc, on considère que... et il me dit, puis il est d'une jeune génération, j'ai pas l'air assez homme mm-hmm. pour elle. Et moi, quand il m'a dit ça, j'étais complètement à l'envers parce que je me dis, il faut que la femme, si elle dit qu'elle valorise l'intelligence émotionnelle, il faut qu'elle soit capable d'accueillir cette vulnérabilité-là sans dire, ah ben, tu sais, il se tient pas, c'est pas un homme. Mm. Il y a ça aussi.
Absolument. Quand on a lancé des hommes qui changent, le nom le dit, quand on a fait un événement de lancement et quelqu'un est venu me voir, il me dit, mais c'est intéressant, mais est-ce que les femmes devraient changer aussi oui. si les hommes changent oui. Et effectivement, on l'avait, à l'époque, on ne l'avait pas vu, c'était un angle mort de notre départ. Mais effectivement, c'est le cas. Et puis, j'ai un autre exemple, une amie femme qui m'a appelé un jour un peu en pleurs en me disant, mais là, mon chum, il est en pleine réflexion et tout ça, il est en train de changer plein de choses. Et je ne sais pas quoi faire, je panique.
Ah oui,
ah ben oui, déstabilisé complètement. Parce qu'effectivement, alors que ça fait des années que tu lui reproches de ne pas être dans oui. cette sensibilité-là ou dans cette ouverture-là, puis tout d'un coup, il s'y en approche, et là, tout d'un coup, tu ne sais plus quoi faire. Donc oui, effectivement, et puis le patriarcat, si on revient sur ça, ça nous brainwash et les hommes et les femmes. Donc effectivement, on est formaté pour être dans des rôles où la femme, on lui apprend à aimer finalement l'homme, le rock, le pourvoyeur, etc. Donc, j'y vais encore dans les grands traits.
Non, mais vous parlez quand même de la filmographie.
Mais ben voilà, c'est ça, c'est quand même très très présent dans l'imaginaire collectif. Donc oui, effectivement, si tout d'un coup l'homme prend un pas de recul par rapport à cette espèce de force immuable, ben ça peut effectivement perturber certaines femmes.
Ben, ce serait bien je sais pas, j'ai pas vu si vous avez déjà fait une liste de films où on voit de beaux exemples.
On commence à le documenter, mais il y en a pas tant que ça. Il y a eu la série Bellefleur qui a fait beaucoup parler depuis un an et demi, qui est une super belle, une belle démonstration. La série Ted Lasso, où on voit ce coach de soccer là qui complètement hors norme par rapport à ce qu'on peut imaginer dans le monde sportif, etc. Donc, c'est quelques exemples qui me viennent en tête, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup à faire. Il n'y en a pas encore tant que ça, je pense, des exemples. Il y en a évidemment certainement plein d'autres que j'oublie, mais je pense qu'il y a surtout beaucoup de choses à faire devant nous.
Michael, comment on peut aider des hommes qui changent?
Venez vous abonner à notre infolettre, à nos médias sociaux pour participer finalement à ces réflexions, à ces conversations. Je disais qu'on est beaucoup dans le bénévolat en ce moment, donc je pense qu'effectivement, philanthropie et soutien financier sont évidemment les bienvenus parce qu'il y a beaucoup à créer, je le disais, mais il faut créer ces contenus, cette information, ces ateliers, ces conférences qu'on a commencé à faire, mais il y a beaucoup, beaucoup à faire.
Merci beaucoup, Michael Carlier, qui a fondé Des Hommes qui changent avec un comité aviseur. On n'a pas eu le temps d'en parler. On en parlera peut-être dans le cadre d'Inclusion Inc. J'en profite pour remercier les super hommes de notre émission Les Héros Anonymes, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et notre super femme Catherine Bourderon et moi, Chantal Doré au micro. Je vous rappelle que tous nos épisodes sont disponibles sur nos plateformes de balado-diffusion. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve très bientôt. Bye!